Alors, première intervention par Yannick Lemoulec, donc rennais, ou presque.
Ancien étudiant rennais. Dans les années 90, mais non.
Qui est actuellement enseignant, professeur agrégé d'histoire et géographie, et qui va brosser finalement 40 années de punk rennais à travers quatre grands moments.
Bonjour à tous, donc je suis Yannick Lemoulec, je suis professeur agrégé d'histoire-géographie en lycée et j'ai commencé en 2011-2012 une thèse sur l'histoire sociale du rock à Rennes des années 60 à l'an 2000. Donc cette thèse est restée un peu en suspens et là cette journée sur le punk me permet de replonger vraiment dans l'histoire du rock à Rennes par le biais de cette conférence sur le punk. Donc je remercie beaucoup Solveig Serre et Luc Robben, Patrice Poche aussi pour la documentation qu'il m'a fournie en disque, l'équipe des Transmusicales et Jérôme Guibert qui a suggéré ma participation. Je vais faire une introduction très rapide en disant que, en gros, je vais présenter quatre moments punk rennais. 40 ans, c'est long, c'est très long, il y a beaucoup de choses à dire. Par ailleurs, je ne suis pas spécialiste du punk. Un premier moment, 1976-1983, je donnerai le contenu après. Un deuxième moment, en gros, les années 80. Un troisième moment, les années 90 et 2000. Et puis un quatrième moment, qui n'est pas vraiment un moment, qui est une facette des années 2010. Je ne peux pas présenter véritablement les années 2010, j'ai pas d'informations d'ouvrages, d'érudition là-dessus. Donc je vais juste présenter une facette des années 2010. Alors premier moment, le moment punk et post-punk. J'ai cru bon d'accoler l'étiquette post-punk, 76-83. Tout d'abord, avant le punk, on a une ville en éveil rock, en gros, de 1969 à 1976. On a une ville qui a l'image d'être plutôt endormie. Il y a eu quand même des groupes de rock dans les années 80, dans les années 60, pardon, quelques groupes, mais qui n'ont pas réussi à impacter la scène musicale rennaise. Et il faut attendre quand même les années 70 pour avoir une culture rock qui se développe dans la ville. Alors que la ville est plutôt est jeune, mais la jeunesse est en dehors du centre-ville. On a une jeunesse qui est située dans les campus, dans les universités, et cette jeunesse n'est pas du tout présente dans le centre-ville. Il y a un seul lieu dans le centre de la ville qui est le magasin Disque 2000, qui va fédérer une communauté rockophilique, une communauté de fans de rock au cœur de la ville. Donc c'est le magasin qui est ouvert par Hervé de Bélizal en 1969, puis qui va déménager en 1972. Et donc c'est un magasin qui est majeur en France, puisque c'est un des premiers, parfois le seul importateur de disques de labels anglo-saxons, surtout du blues, du folk, du jazz, et peu à peu avec un disquaire Hervé Bordier, également un accès au rock avant-gardiste. Donc autour de cette boutique, de ce magasin, au centre de la ville, on a une communauté de jeunes discophiles, souvent étudiants, qui sont nés en gros autour des années 54-55. On pourrait peut-être distinguer ceux qui sont nés avant 55, dans la première moitié des années 50, qui vont être plutôt les organisateurs du punk dans la ville. Donc, je pense à Pierre Fablet, à Jean-Louis Brossard, à Hervé Bordier. Et puis peut-être une deuxième micro-génération, celle qui est née dans la deuxième moitié des années 50, qui eux vont avoir 20 ans en 76 et qui sont vraiment les producteurs de musique punk, qui vont être les membres de ces groupes punk de la scène rennaise. Voilà, on a quand même une rockophilie naissante dans la ville, mais qui est simplement ponctuelle liée à ce magasin. Il n'empêche qu'en parallèle, dans les MJC, surtout les MJC du Grand Cordel tout d'abord, puis dans la MJC du Centre, qui est basée rue de Redon, on a des associations autour de Pierre Fablet, qui pourra peut-être nous en parler tout à l'heure, le fameux CRAC, le collectif rennais d'action culturelle dont il est le président, et qui est basé dans cette MJC Centre, qui organise des concerts, par exemple de gong, aussi des soirées cinématographiques. Hein. Et puis une deuxième association qui naît en 1976, qui est celle de Hervé Bordier, qui s'appelle Thérapin, qui est en relation avec Pierre Fablet, hein, et qui va également développer des concerts dans la ville, à partir du magasin Disque 2000. Ce qui fait qu'arrivé en 75-76, on a basé sur cet MJC Centre rue de Redon quelques groupes qui commencent à jouer dans cet MJC, des groupes qui sont très variés, qui peuvent être autant du faire de la musique psychédélique que de la musique free jazz, funk. On a également du blues qui est joué, du hard rock blues également. Et puis on a le premier groupe de Christian Trotou, dit Rocky, qui sera appelé Darjolos plus tard. Christian Trotou qui, à l'été 76, hein, avec Franck Darcel, va créer un premier groupe qui s'appelle à l'époque Night Society et qui joue dans cette MJC de la rue de Redon. C'est l'ancêtre du groupe Marquis de Sade. Donc avant 76, avant l'été punk, hein, y a bien une constitution d'une communauté rockophile à Rennes. Donc le punk a été important dans la ville, mais il y a quand même déjà du rock dans la ville, surtout arrivé en 75-76. Et donc je peux passer au deuxième moment punk. En gros, de l'été 76 à la moitié 1978, j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'on arrête ce premier moment punk, c'est difficile. En tout cas, dans la ville de Rennes, il y a déjà une sorte de communauté bohème de quelques punks qui s'établit dans le centre-ville autour de Jean-Pierre Guèze, qui est un disquaire de chez Disque 2000. On y retrouve Franck Darcel, Christian Trotou et puis d'autres personnalités que j'ai pas le temps de citer. Hein. Et cette petite communauté va en gros conquérir une petite parcelle de territoire urbain dans une ville qui est en fait dominée surtout par des clans politiques de la LCR, de l'extrême droite, des lieux aussi plutôt de culture hippie. Et donc petit à petit, ces punks, une dizaine de punks, vont trouver des lieux, des bars, l'Épée en 77 et puis le Drugstore en 78. Et ils vont rejoindre une autre troupe, un autre groupe punk rennais autour des fans de Fracture, le groupe de Sergueï Papaye, qui pourra nous en parler aussi tout à l'heure. Donc il y a une fusion d'un groupe punk dans la ville, et c'est ce groupe punk plus la communauté rockophile rennaise qui tourne autour de Disque 2000 qui va recevoir le mouvement punk, qui va recevoir cette culture. Alors là, je vais aller assez vite. Il y a donc bien sûr les médias spécialisés qui sont autant français que britanniques, le NME, Melody Maker, des voyages réguliers. Ces rockophiles rennais sont vraiment des habitués de Londres. Certains même sont habitués des États-Unis, comme Franck Darcel, qui a passé 2 étés déjà avant l'été punk aux États-Unis, à New York. Donc voilà, des voyages qui sont racontés par exemple par Christian Darjolos dans le livre Rock. Donc il pourra peut-être nous raconter ces éléments, ce qu'a dit aussi Béatrice Massé tout à l'heure. Donc voilà, on a des rockophiles de pointe qui vont aller chercher le punk à Londres et qui vont le ramener avec ces fameux 45 tours qu'ils écoutent jusque tard dans la nuit. Les disques sont pris d'assaut dans les boutiques, Disque 2000, mais également Rennes Music, un nouveau disquaire qui ouvre en 77 et qui permet d'accéder aux Sex Pistols, aux Clash. Par ailleurs, lui, Philippe Pascal, est plutôt branché sur le punk new-yorkais, me semble-t-il, avec Père Ubu, Patti Smith, Television. Voilà, pour cet accès aux disques. Également, le festival dont a parlé Béatrice Massé tout à l'heure, le deuxième festival punk, semble-t-il, à Mont-de-Marsan, qui est fréquenté par Pierre Fablet, Jean-Louis Brossard, Béatrice Massé et Richard Dumas, qui fait partie aussi de cette scène rock avant d'être photographe pour la presse nationale. On fait venir des groupes punk à Rennes. Il y a au moins un groupe anglo-saxon, anglais, les Damned, qui à l'automne 77 vont jouer au Hall Martenot. Puis on a aussi des groupes français, Little Bob Story, Starshooter, Bijoux, Téléphone, Stinky Toys, parfois l'étiquette est difficile, punk, pas punk. Et puis également, on a une réception des arts graphiques qui sont développés par le groupe parisien Kiki Picasso et que Pierre Fablet va s'inspirer. Ce qui fait qu'il va avoir une production punk rennaise, des groupes qui vont exprimer le punk. Tout d'abord, le premier groupe que l'on avait tout à l'heure, un Night Society, continue au cours de cette première moitié de l'année 77. Change de nom, s'appelle Détroit Punk, puis Gangrène en un mot, ou alors Gangrène en deux mots. Et ils vont faire en gros 4 concerts au printemps 77. Avec des reprises du Velvet, des Stones, et puis également des reprises de pub rock, particulièrement le groupe Eddie and the Oddrods. En parallèle, on a un groupe un peu dans la même tonalité, mais qui n'est pas rennais, qui est entre Dole et Saint-Malo, je ne sais pas trop, qui est Pentatol Lethali, le groupe de Philippe Pascal, qui reprend aussi les Stooges, le Velvet, qui semblerait être plus velvétien que le groupe de Christian Trottu et de Frank Dercel. Ce qui fait qu'arrivé à la moitié de l'année 77, on a en fait deux groupes punk stabilisés, donc esthétiquement punk, Marquis de Sade, nouveau nom pour le groupe Gangrène, qui va faire une dizaine de concerts entre mi-77 et avril 78, qui sont des concerts surtout à Rennes. Et puis on a un deuxième groupe qui est le groupe Fracture, le deuxième groupe rennais punk, qui naît en septembre 77. Jusque mars 78, ce groupe fait en gros 5-6 concerts, surtout à Rennes. Il faudrait rajouter des groupes que j'ai attachés à la scène rennaise et qui sont au départ des groupes plutôt jazz, que je qualifie de jazz punk, c'est discutable. Donc 5 groupes qui sont liés au jazz, qui sont liés au free jazz, mais qui vont rentrer dans cette dynamique du punk de l'année 77. Et donc on a 4 groupes qui tournent autour de Pierre Fablet. Son groupe à lui, le groupe Les Plaies, qui est fondé en 74, qui va durer au moins jusqu'en 82. Et puis on a des groupes où il est présent, comme Tohu Bohu, Sex Pistols, un groupe qui naît quasiment le jour où les Sex Pistols finissent, déjà peut-être un signe. Et puis un groupe de circonstances, Diarrhée, qui est formé en première partie du groupe punk français Star Shooter. Donc on a 4 groupes qui tournent autour de Pierre Fablet, dans lesquels peuvent jouer 2 activistes de free jazz, de jazz rennais, qui sont Philippe Herpin et puis Daniel Pabeuf. À noter que ces groupes-là, ils vont s'éteindre pendant quelques années, mais en fait ils vont renaître plus tard, dans le moment post-punk. Donc dans ce premier moment punk, il y a une naissance de groupes majeurs de la scène rennaise, punk classique ou alors jazz punk. Et il y a des ponts, en tout cas, qui sont noués entre Marquis de Sade, Fracture, et ces groupes de jazz punk. Avec la personne de Sergueï Papaï, qui est le leader de Fracture, et qui va jouer avec des groupes de Pierre Fablet. Et puis avec ces 2 saxophonistes, Philippe Herpin et Daniel Pabeuf, qui après joueront avec Marquis de Sade. Le premier étant Daniel Pabeuf en mars 78, me semble-t-il. On a vraiment une vitalité musicale punk rennaise au cours de l'année 77 et au début de l'année 78. Ça fait à peu près 7 groupes, même si certains ne vont pas durer mais vont renaître après, il y a quand même un impact. Il faudrait quand même prendre du recul parce que par rapport à la scène rennaise ou régionale à l'époque, il y a un festival de la chanson qui est organisé en janvier 78 sur 5-6 jours. Et ce festival fait jouer 30 chanteurs de type cabaret, donc rien à voir avec le punk, et 30 chanteurs et groupes électrifiés. Parmi ces groupes, on a 10 groupes de folk, on a 8 groupes de rock, un rock souvent de type stonien, Stone, Rolling Stone, et on n'a que 6 groupes de punk. Donc cette petite scène punk, très dynamique, en fait, elle n'est pas du tout dominante dans la ville à cette époque. On a quand même 25 concerts de punk rennais, surtout des concerts à Rennes. On voit que ces groupes ont du mal à jouer ailleurs ou ne jouent pas ailleurs pour X raisons. On a quand même un reste majeur, c'est l'enregistrement d'un 45 tours par le groupe Marquis de Sade. Le 45 tours Erteisel, qui va sortir le 21 juin 78. Est-on encore dans le punk? Est-on déjà dans le post-punk? C'est difficile à dire. Je laisserai peut-être trancher Philippe Gonin, qui va parler après du post-punk pour Marquis de Sade. Un peu d'écho pour ce 45 tours qui passe à la radio sur Europe 1, qui va même passer à la BBC, puisque Étienne Dao va diffuser à Londres ce 45 tours. Et puis quelques bonnes appréciations dans la presse parisienne. Il n'y a pas de promo pour ce maxi, pour ce 45 tours. Ce qui fait qu'il y a un vrai moment punk rennais en 77, mi-78. peut-être un peu tardif pour l'enregistrement au moins du 45 tours hein, par rapport à d'autres scènes que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Un peu isolé nationalement, minoritaire localement, hein, mais une scène qui est autonome, qui est ouverte musicalement à d'autres styles comme le jazz et qui est originale, au moins dans le son hein, de ce 45 tours. Il y a un moment où le punk semble être en plein doute hein, à Rennes. Le punk rennais est en doute, peut-être à partir de mars 78. Ça se voit surtout pour le groupe Fracture, hein, qui pendant un an est à l'arrêt, puisque trois de ses membres sont au service militaire, de mars 78 à mars 79. Donc là, on a un groupe qui est décapité, hein, une rupture du groupe. Seul Sergueï Papaï peut continuer des activités, ne fait pas son service militaire à ce moment-là, en tout cas, et donc se trouve sans groupe. C'est un peu la même chose qui arrive à Christian Troutou, hein, Christian Dargelos, qui également fait son service militaire, a priori de août 78 à juin 79, ce qui fait que ça a un impact quand même sur sa participation au groupe Marquis de Sade, d'autant qu'il va être exclu quelque part du groupe. C'est un peu la crise aussi dans Marquis de Sade, dans cette première moitié de l'année 78. Il y a des départs de Pierre Thomas, le batteur, de Christian Dargelos, du saxophoniste Daniel Pabeuf, d'Hervé Bordier, le manager. Et il y a surtout 8 mois sans concert. On a un groupe qui ne joue pas de le 20 avril 78 au 20 décembre 78. Et c'est un peu la même chose pour les groupes jazz punk que j'ai cités, comme les Sax Pistols ou Anchis Dutu Cool, qui eux non plus ne jouent pas. Je n'ai pas de signe de vie de ces groupes. Alors je précise que je n'ai pas regardé la presse locale, hein, mais d'après l'ouvrage de Christophe Brault, qui donne pas mal d'informations quand même sur ces groupes, on a vraiment des groupes qui sont mis en sommeil pendant 1, 2 ans, 3 ans. D'un autre côté, on peut peut-être dire que le punk n'est pas mort, en tout cas qu'il y a une étrange vie hein, du punk, pour reprendre le titre d'une chanson des Nus, le groupe de Christian Dargelos. En effet, Sergueï Papaï va participer au groupe Marquis de Sade, et dialoguer hein, avec surtout Philippe Pascal au niveau de la culture européenne. Christian Dargelos profite de son service militaire également pour faire une culture prolongée, hein, une culture littéraire, s'intéresser à Jean Genet, à Oscar Wilde, à Cocteau. Et puis au sein de Marquis de Sade, on tente des expériences pour essayer d'avancer, hein, pour essayer peut-être déjà de dépasser le punk. On a le voyage de Frank Darcel à New York, 3 mois en 78, où il voit en gros tous les groupes de la scène new-yorkaise, les Phillies, les Ramones, Johnny Thunders, etc. Et puis on fait des essais avec Pierre Fablet, avec Henri Abega, ce qui fait qu'on reprend quand même des concerts à la fin de l'année 78, hein, avec ce concert de la première partie des Stickin' Toys en décembre 78 à Rennes, organisé par Étienne Dao hein, et son association Ellipse. Et puis, on a les 3 soirs de concert au Rose Bonbon en janvier 79, où là, il y a un vrai buzz parisien qui se fait autour du groupe Marquis de Sade. Ce qui fait qu'on en vient au moment post-punk. Il y a peut-être 2 moments post-punk sur lesquels je ne vais pas trop insister. Tout d'abord, un premier moment, on a un redémarrage de la scène derrière la locomotive Marquis de Sade, qui pendant 2 ans, en gros, de mars 79 à avril 81, va prendre une notoriété nationale en sortant 2 albums, en faisant au moins 2 tournées nationales, faisant la une des journaux, des magazines spécialisés actuels en partie. Derrière Marquis de Sade, le groupe Fracture se reconstitue, enregistre un 45 tours. Et puis on a également Christian Trotou, qui va créer son groupe Les Nus et qui va faire les trans en 1980. C'est un peu la même chose qui se passe pour les groupes jazz punk, hein, comme Anchis Dutu Cool, qui vont enregistrer un album qui sort à la fin de l'année 80. Et puis le groupe Sax Pistols, qui lui va enregistrer un titre pour une compilation, et puis qui ensuite va, un peu après, va enregistrer des disques. On a des nouveaux venus, qui n'enregistrent pas, hein, mais qui commencent à chanter, Étienne Dao, les groupes de Daniel Chenvez, Opéra Dissidence, James Bond. Hein. On a vraiment un réveil de la scène, dans un contexte d'après-punk, dans une logique peut-être de dépasser le punk, de créer autre chose à partir du punk, de transformer ce punk pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est bien sûr les trans musicales en 79 et 80 qui vont être le moment de reconstitution de la scène après les difficultés financières de l'association Thérapin, par exemple. Les trans de 79 sont le moment de reconstitution des forces hein, de cette scène rennaise. Il n'empêche qu'aux premières transmusicales, il n'y a que la moitié des groupes qui sont punk ou post-punk. Hein. On a des groupes de progressive music, on a des groupes de hard rock, on a des groupes de jazz, ce qui fait que voilà, le réveil de la scène post-punk est à relativiser. Peut-être que pour les deuxièmes trans, en 80, on a vraiment une homogénéisation du son post-punk dans le cadre des trans musicales. On pourrait citer des lieux importants, hein, la MJC La Paillette, la Salle de la Cité, le studio DB qui ouvre pour enregistrer le premier album de Mark Itzad, et puis des disquaires. Hein, j'ai parlé de Rennes Musique, on pourrait rajouter aussi Disque Contact. Le groupe Mark Itzad va arrêter au printemps 81, mais ça ne semble pas être une rupture radicale hein, dans cette scène post-punk. D'ailleurs, ce groupe va donner naissance à d'autres groupes, hein, Octobre et Marxberg, qui vont sortir des disques. Et puis, les groupes qui étaient jazz-punk autour, eux, vont enregistrer de nouveaux albums. Hein, Anchis du Toukoul, Sax Pustuls, Tohu Bohu. On a les Nus qui vont sortir leur album, hein, le groupe de Christian Trottou. Fracture continue à jouer. Et puis, on a l'album d'Étienne Dao, en novembre 81, qui sort. Et ensuite, on a quelque part les élèves de Mark Itzad hein, qui vont s'affirmer sur la scène rennaise en 81, 82, 83, comme Ubik, le groupe de Philippe Moujard, Complot Bronzevik, les groupes de Daniel Chenvez, les nouveaux groupes, hein, les Espions, L'Ombre Jaune, et puis des groupes comme Geisha, Warsaw Pact, qui vont donner naissance à End of Data. Donc des groupes qui vont occuper la scène rennaise dans les années 80. Deuxième moment, punk, donc c'est les années 80, hein, le punk des années 80, on a une nouvelle scène punk rennaise qui renaît assez tôt, hein, en 79-80, avec six groupes. Tout d'abord P38, le groupe de Christophe Launay, qui produit un punk clashien hein, assez énergique. Les Kalachnikov, le groupe des frères Perrault, hein, Martin et Antoine Perrault, Dominique Garraud, hein, le futur Dominique Sonic, qui font un punk plutôt rock américain. On a également le groupe Wart, qui avant lui prend le nom de Scam, Angry Rats. Donc on a un groupe qui occupe 7 ans la scène rennaise, qui produisent un cold punk new wave, assez brutal. Et on a le groupe Trotskids, de 82 à 87, un groupe pur jus punk, plutôt skin, oi, avec des textes en français. Le groupe également Mixomatose, autour de René Gentil, hein. Qui sera présent aussi dans la journée, et puis le groupe Animators, qui est un groupe de punk rock alternatif, de tendance psychobilly. On a un moment punk dans les années 80, autour de l'année 85-86, hein, vraiment où on a cinq groupes qui s'affirment, qui jouent régulièrement, ce qui fait qu'il y a une vraie scène punk rennaise dans les années 80, avec des groupes qui jouent ensemble, qui s'échangent du matériel, une dynamique mais qui m'apparaît comme étant une face B rennaise. S'il fallait placer cette scène punk rennaise dans le rock rennais des années 80, on pourrait imaginer qu'on la mette comme une face B. Alors pourquoi ? Parce que ces groupes appartiennent avec d'autres, avec des groupes plus rock, hein, à la deuxième génération rennaise, celle qui est née après Mark Itzad. Ce sont des jeunes qui sont nés plutôt dans les années 60, la première moitié des années 60, autour de 1964. Ils ont une culture plus rock, plus 50s, plus rock'n'roll, et ils vont essayer de s'affirmer dans un contexte des années 80 à Rennes qui est dominé par la New Wave, la Cold Wave. Et donc ça va être assez difficile. Il y a une volonté de s'affirmer. Pourquoi une phase B ? Parce qu'ils n'ont pas enregistré beaucoup de disques. On n'a qu'un seul album qui a été enregistré, autrement on a des maxi 45 tours. Donc ça fait quand même 5-6 groupes qui enregistrent peu, qui ont du mal à enregistrer. Alors pour X raisons, hein, peut-être que l'enregistrement ne semble pas être la priorité, mais plutôt les concerts. Hein. On a le mode de vie autour du concert. C'est compliqué aussi, au milieu des années 80, le studio DB est un peu en difficulté, donc c'est un peu compliqué d'enregistrer pour ces groupes punk rennais. Les labels indépendants commencent à naître, mais ils sont plutôt à Paris, ce qui fait que c'est compliqué aussi hein, d'accéder à la scène parisienne, aux acteurs du punk parisien. Et puis c'est peut-être une phase B parce qu'on a l'impression que le punk français, bah, il va peut-être triompher ailleurs qu'à Rennes. Hein. Peut-être qu'il va triompher plutôt à Paris avec des labels, avec des groupes majeurs. Ce que ne vont pas réussir les punks rennais. D'un autre côté, on peut dire que le punk aussi, c'est peut-être sa volonté de rester une phase B, hein, d'être une phase B. Et en tout cas, cette phase B, il l'a bien vécue. Alors justement, je pensais continuer sur Rallumer le Punk, hein, ces groupes Rallument le Punk, avec ou hors de Rennes. On peut dire qu'il rallume le punk en étant de Rennes, en étant avec Rennes. Il y a d'abord la filiation avec les groupes Marquis de Sade, avec les groupes Fracture. Et puis, ces groupes bénéficient de toutes les salles de concert hein, qu'il y a à Rennes, de toute la structure rock qui a été mise en place par la première génération punk. Donc, ils jouent dans les maisons de quartier, les MJC, mais surtout dans les trans musicales. Le groupe P38 va jouer en 81, les Trotskyd en 82, Kalachnikov en 83, Wart en 86. Donc, ces groupes profitent des trans musicales. Ils profitent des salles de concert, de la Cité, de l'Ubu. Hein. Ils profitent aussi des boîtes de nuit qui s'ouvrent et certaines se spécialisent dans le punk, hein, comme la salle Le Paradise, également le Chewing Gum, et puis le Bilbo Bar, qui est un bar à béton dans lequel René Gentil de Mixomatose va animer des soirées punk. La première soirée, c'est avec les Trotskyd, avant qu'il ne crée une sorte d'organisation de concert, hein, Big René Organisation, où il va faire jouer des groupes parisiens à Rennes. Pour l'enregistrement aussi, ces groupes profitent quand même de la structure rennaise, hein, avec le studio DB, où vont enregistrer Wart et Kalachnikov. Il y a également d'autres studios qui vont ouvrir, comme Drop Studio, hein, le studio de l'Ubu. On pourrait affirmer que les Kalachnikov sont peut-être le groupe le plus implanté dans la ville de Rennes. Ils bénéficient de l'entourage de l'équipe des transmusicales avec Hervé Bordier qui est le producteur de leur maxi. Kalachnikov arrive à enregistrer dans le studio de Franck Darcel, hein, de Marquis de Sade. Et puis il y a des relais parisiens dans le label Madrigal qui vont permettre de sortir le maxi 45 tours de Kalachnikov. Quelque part c'est ce groupe qui incarne une identité punk rennaise. C'est un groupe qui vient de Lamballe, qui s'installe à Rennes. C'est un groupe qui va marquer son territoire dans la ville, autour d'un bar, hein, le Bebop, qui est proche de l'Ubu. Et puis on a une insertion de ces acteurs, Dominique Sonic et puis Antoine Perrault, qui vont être techniciens ou travailler pour l'organisation des trans musicales dans les années 80. On pourrait dire que ce groupe, il a suivi la voie rennaise pour rallumer le punk, et ce, dans la flamboyance. Il n'empêche que le punk rennais s'est aussi affirmé en dehors de Rennes, alors par des concerts. Hein. Les Trotskyd ont joué 200 concerts, Kalachnikov 300 concerts, surtout en France, mais parfois aussi à l'étranger. Hein. Donc on a des groupes qui cultivent le concert. Je m'attacherai plutôt aux Trotskyd, hein, qui me paraît un groupe particulier, qui est en plusieurs lieux à la fois, hein, qui a à la fois une assise finistérienne avec un deuxième batteur qui lui permet de jouer dans le Finistère avec d'autres groupes punk de l'époque. Et puis, on a une reconnaissance de ce groupe dans la région centre par le label KO Productions. Trotskyd vont enregistrer deux titres, hein, Gueule d'enfer et puis Pas de voyous dans mon bar pour deux compilations KO en France. Ils vont participer également à des festivals KO à Angers en 83 et à Orléans en 84. Plus tard, ce groupe va plus ou moins s'exiler à Paris et donc va pouvoir bénéficier de contacts, hein, avec la scène parisienne, avec les labels parisiens comme le label Terminal Records qui va leur permettre d'enregistrer à Londres, au studio Alaska, un album à mort à fond. Donc on a un groupe qui a suivi plutôt la voie du réseau, hein, le réseau orléanais, le réseau parisien, pour pouvoir rallumer le punk et avec tranchant. Troisième piste, c'est la piste suivie par Wart, hein, qui lui va suivre plutôt l'autogestion, l'autoproduction. Ils vont mettre en place leur propre label pour sortir leur maxi 45 tours. Donc on a un groupe qui a suivi la voie de l'autogestion pour rallumer le punk. En transition vers le troisième moment punk, je dirais qu'en fait cette génération là des années 80, elle a réussi à rallumer le punk à Rennes en empruntant diverses voies qui vont être conciliées par la génération suivante. Il y a la voie rennaise des Kalachnikov, la voie du réseau de Trotskyd et puis la voie de l'autogestion, hein, de Wart. La génération future du punk, celle des années 90-2000, cette future génération du No Future, en fait, elle va réussir à faire durer le punk en croisant ses modes de fonctionnement. Donc le punk pour la vie, hein, j'aurais pu parler de punk durable dans les années 90 et 2000. On a en effet une vitalité explosive du punk rennais avec d'innombrables groupes que je ne peux pas citer. Je n'en retiendrai que quatre. Les plus importants, ceux qui ont duré le plus longtemps, ce sont ces quatre groupes punk qui vont durer, hein, vraiment. C'est le groupe Stormcore, Banane Métallique, Tagada Jones et puis Mass Murderers. Donc ces quatre groupes, non seulement ils vont durer par leur activité musicale, mais surtout par leur activité organisationnelle. Ils vont réussir à organiser des labels, des associations pour animer le punk à Rennes, organiser des concerts, enregistrer des disques. On peut revenir sur le contexte des années 90 et 2000. On a l'impression que c'est un peu cette scène, elle existe un peu par déception de la fin des Bérus et de la scène punk alternative rennaise. C'est un peu après les Bérus, par amour. On a des adolescents des années 70 qui ont écouté les Bérus et la scène punk en cette années 80 et qui quelque part veulent rallumer la flamme. On a un moment fort au milieu des années 90, en 94-96, où ces quatre groupes vont vraiment se révéler au grand public. On a un moment plus difficile dans la deuxième moitié des années 2000, avec la crise économique et la crise du disque. Ces groupes vont quelque part faire de Rennes une métropole punk. Je ne sais pas s'il y a d'autres métropoles régionales punk en France, ça serait bien de voir dans le cadre du programme PIND, mais en tout cas, on a vraiment une ville qui s'impose, qui va organiser le punk entre le local où elle a des studios d'enregistrement, des salles de concert, et puis l'élargissement à l'européen, voire à l'international, avec des nouveaux moyens d'information, des nouveaux moyens de transport qui permettent à cette scène de durer, de perdurer. Donc je comptais parler de Stormcore autour de David Mancilla, un groupe qui est né en 89-97, qui fait surtout du hardcore, new-yorkais, et qui va fédérer à Rennes de nouveaux groupes rennais, puisque c'est le premier groupe en fait à faire jouer du punk hardcore à Rennes dans les années 90. Et c'est un groupe qui va atteindre l'élite du genre au niveau européen. En parallèle, David Mancilla va créer un label, qui est le label Overcome, de 97 à 2007, un label majeur pour la scène hardcore, avec l'enregistrement de plusieurs groupes, de groupes français, avec également la distribution de groupes étrangers de hardcore et l'organisation de concerts. On pourrait parler aussi de Banane Métallique, un groupe qui est né en 89, un groupe qui vient de Mayenne et qui s'est installé à Rennes dans les années 90, au début des années 90, qui produit un punk qui mélange l'horreur et le punk psychobilly. Ils ont enregistré 3 albums et c'est un groupe qui est réputé, qui a fait des tournées au Brésil, en Russie, aux États-Unis. Donc on a vraiment un élargissement du champ d'expression de ce groupe. En parallèle, s'est créée une association, Banana Juice, qui organise des concerts. Au départ, une association de fans qui va organiser des concerts et qui va élargir le champ d'action au surf, au ska, au garage dans la ville de Rennes. On pourrait parler aussi de Mass Murderers, qui est un groupe de Saint-Brieuc, né en 93 et qui assez vite s'est installé à Rennes, qui lui défend un punk hardcore, influencé par GBH et Exploited. Ils vont sortir 3 albums, ils ont fait 3 concerts partout en Europe. Donc c'est un groupe majeur de la scène punk des années 90. En parallèle, ils vont créer un label, qui est le label Mass Production, Mass Prod, à partir de 95, qui existe encore, et qui va enregistrer plus de 160 albums, au moins, qui sont enregistrés, produits par Mass Production, avec des compilations Brace Disorder, avec un festival Brace Disorder, et avec même des gens qui travaillent à plein temps ou à mi-temps dans le cadre du jardin moderne. Alors ça n'empêche qu'il y a des difficultés pour ce label comme pour les autres, mais il n'empêche que cela fait perdurer le punk dans la ville de Rennes. Enfin, je pourrais parler de Tagada Jones, un groupe qui est apparu en 93 et qui très vite a eu du succès en reprenant le flambeau des Berruriers Noirs, des Ramones, etc. Et qui a sorti une quinzaine de disques, qui a fait 1600 concerts dans 24 pays. Donc on a vraiment un élargissement du territoire et une durabilité de ce groupe punk. En parallèle, ils vont créer Enragé Productions, qui va leur permettre de sortir des disques pour eux ou pour des groupes amis, et surtout qui va leur permettre de faire tourner plein de groupes. C'est un des plus importants tourneurs de la mouvance punk hardcore, qui fait tourner, qui a fait jouer en gros 120 groupes, dont des groupes de dimension internationale comme Sepultura. Donc voilà, on a vraiment ce troisième moment où des groupes punk, au-delà de leur activité musicale, vont pouvoir faire durer le punk, faire vivre le punk à Rennes et en Bretagne de façon durable. Pour finir, moi je peux juste parler d'une facette des années 2010, une facette un peu rétro-punk, célébrer, fêter le punk. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu une reformation de groupes punk historiques, reformation de Fracture en 2004, en 2011 de P38, de Wart, de Kalashnikov, de Trotskids, de Mass Murderers, en 2003 des Nus, et puis en 2017 de Marquis de Sade. Autour de Patrice Poche, ces groupes ont joué, surtout lors de soirées fameuses, en lien avec les transmusicales, pour la soirée de l'Ubu, le 8 avril 2011, où Wart, P38, Fracture, Trotskids et Kalashnikov ont joué dans le cadre des transmusicales. Donc c'est une grande soirée de reconstitution, de célébration du punk rennais. Et puis, deuxième soirée, peut-être l'acmé, c'est la reconstitution du groupe Marquis de Sade, le 18 septembre 2017, dans la salle du Liberté, devant 3000 personnes. En parallèle, des groupes, des disques vont sortir, des disques qui n'étaient pas sortis. Ils sont sortis par le label Poche Records, de Patrice Poche. Un mini-album de P38 qui s'appelle Young Wolf, qui sort en 2011. Et puis également un 45 tours de Mixomatose, Traqué comme un rat, qui sort en 2013. Et enfin, on peut dire que dans ces années 2010, il y a une volonté de raconter le punk rennais. Le raconter par écrit, on a vu les ouvrages dirigés par Franck Darcel, Rock. Également l'ouvrage de Patrice Poche sur Marquis de Sade, qui est sorti récemment. Le raconter également par l'exposition, les expositions de Patrice Poche, Rennes 1981, qui était en 2011, et puis l'exposition qu'il y a eu sur Marquis de Sade en septembre 2017. Enfin, raconter le punk par la parole et la pensée. Je pense bien sûr à cette journée d'études, PIND, de ce jour. Et donc, je finirai par ces mots. Bonne fête au punk rennais et bonne fête à tous.